Les séminaires du Collège de France.
Aujourd'hui, c'est moi qui vais commencer continuant donc l'examen de la question de la chronologie, de la succession des règnes, des premiers couchants, uniquement en me basant sur les sources non chinoises. Après quoi, en milieu de séance, Chao Zhong reprendra l'étude des passages notamment du Hanshu et du Hu Hanshu, pour nous amener sur la question disputée des fameux cinq Yabgu, qui sera traité en fait à la séance de lundi. Oui, parce que vous savez, le calendrier, on concentre maintenant un peu le calendrier pour pouvoir tenir les temps. Donc en fait, à partir de la semaine prochaine, il y aura deux séances par semaine. Mais ça, c'est sur le site. Alors, la question de la succession des règnes. Bon, en principe, je t'avais prévu de démarrer avec la question Vimataktu versus Sotermegas que j'ai déjà évoquée, mais il est bon quand même de faire un rappel dans le règne précédent, ou les deux règnes précédents. Hein, prendre l'affaire à partir du moment où elle débute, c'est-à-dire à partir du moment où on a des monnaies de souverains qui s'intitulent couchants. Bien. Alors, il y a tout de suite au départ un problème qui n'est pas réglé. C'est que, bon, on sait par les sources chinoises donc, que Chao Zhong va reprendre, que le premier souverain couchant répertorié par les Chinois, c'est Kujula Katfises, dont on a des monnaies qui portent son nom. Bien. Mais on a également un monnayage spécifique à la Bactriane qui semble, peut-être semble-t-il, et ça c'est pas indifférent pour la question des Yabgu, ce monnayage semble localisé, dans la zone du bas fleuve Warche. Et ce monnayage est au nom de quelqu'un qui porte sur les monnaies le titre couchant, mais la question de son nom est très problématique. En tout cas, il n'y a pas le nom Kujula Katfises. Ce qui semble être son nom, mais c'est pas certes, c'est disputé, c'est Eraos. J'ai écrit Eraos, mais en fait, je crois que c'est plutôt Eraios. Il y a les deux lectures. Bon, alors le voilà. Et on a depuis la découverte des reliefs de Khalshayan, dont je vais être amené à reparler, les reliefs de terre crue de Khalshayan, on s'aperçoit pas très loin, enfin, à peu près dans la zone d'émission de ces monnaies, on s'aperçoit que on a fait des comparaisons très convaincantes avec le portrait d'un des princes représentés. Et il se trouve que ce prince est un prince vainqueur. Il tient une armure en trophée. Voilà, il est ici. Alors, est-il le même personnage que Kujula Katfises? Argument pour, c'est que en dehors de lui, on a à ce moment-là pas de monnaie en Bactriane. C'est-à-dire, aucune monnaie attribuée à Kujula Katfises ne semble avoir été frappée en Bactriane. Elles y ont circulé, mais aucune ne semble y avoir été frappée. Ce qui est quand même un petit peu curieux pour un souverain dont la première assise était la Bactriane. Bien. Argument contre. On a quatre noms sur les monnaies d'Eraios. Pas toujours sur les mêmes. Hein. On a Couchant, on a Eraios, on a Sanab, qui est un nom iranien, Sanabares, c'est un nom iranien, et on a Anteir, dont on ne sait pas quoi faire. On n'a jamais ni Kujula ni Katfises. Alors, il y a diverses théories sur ces divers noms. Alors, on a dit un magistrat monétaire, un responsable de la frappe, un prince local, enfin, en fait on ne sait pas. on ne sait pas. Mais aucune monnaie ne porte le nom de Kujula Katfises. Alors, sous son nom, on a des monnaies qui portent le nom de Kujula Katfises. Il a frappé, déjà, c'est la monnaie, c'est la image 1 et 3. Il a frappé des monnaies à l'imitation d'Auguste. Et bilingue, hein, en grec, d'un côté, Basileos, Basileon et Kujula Katfises, on lit ça. Et au dos, c'est en carochti. Il est assis sur un siège curule et Falk a fait le rapprochement avec des revers d'Auguste, donc frappé après la bataille d'Axium, où on voit la même chose. Ceci dit, on a aussi le roi assis sur un siège curule sur, par exemple, les tapisseries de Noïnoula, dont je vais être amené à reparler plus tard. Bien. Alors, par ailleurs, alors, il a aussi frappé des monnaies avec, qui sont des imitations des émissions d'un des derniers souverains indo-grecs, Hermaios, qui a régné, semble-t-il, au Capissa, peut-être au Gandhara, jusque vers moins 70, et dont ensuite on a continué à imiter les monnaies. Alors Kujula a frappé également, donc sous son nom, des imitations d'Hermaios. Par ailleurs, avec son portrait, on a extrêmement peu de monnaies, mais on en a. Ce sont de très rares monnaies qu'on attribue au Sindh, de manière un peu hypothétique. Voilà, avec un physique assez prononcé. Et alors voilà, Joe Crib m'a très gentiment envoyé une planche de son catalogue en préparation, voilà, avec toutes les variantes de ces monnaies très grossières. Et l'inscription, c'est pas évident. En grec, on lit Basileos, mais on lit pas autre chose. En carochti, mais c'est très hypothétique. Ce serait Maharajasa, Rajati Rajasa, Tratarasa, Kuyu. Donc, le roi, grand roi, victorieux, Kuyu, qui serait Kujula. C'est quand même douteux. Mais enfin, on pense quand même que c'est Kujula parce que on ne voit pas qui d'autre ça pourrait être. Alors, ce qu'a remarqué Crib, c'est que, parce qu'on voit que le portrait de cet individu ne ressemble vraiment pas à celui d'Héraios. Bien. Vous voyez, l'arrangement de la chevelure, lui, il a une tiare pointue, avec parfois une espèce de turban. Héraios, il a juste un bandeau. Le visage ne ressemble pas. Et lui, là, on voit sur certaines monnaies, il a des grosses rouflaquettes, là, des grands favoris qu'on n'a pas sur les monnaies d'Héraios. Alors, très bonne remarque de Crib, c'est que les deux types physiques se retrouvent à Khalchayan, dans la représentation des Yuechi. C'est-à-dire que pour Héraios, je l'ai déjà dit, et pour le personnage qui est intitulé sur les monnaies comme Kujula, voilà, on a exactement le même type de favori, vous avez un peu la barbe à la Jules Ferry, hein, sur les reliefs de Khalchayan. Donc on est évidemment dans un milieu ethnique, familier, dynastique, qui est couchant ancien. Bien. Alors, ces monnaies, on les attribue à l'Indus avec un raisonnement un peu indirect. Elles ont été trouvées ensemble, à Taxila, ensemble avec des monnaies indopartes qui elles-mêmes étaient surfrappées sur des monnaies d'un dynaste, disons, iranien, Nahapana, dont on sait qu'il régnait à Barigaza, Broch, au sud du Gujarat, et aussi, vraisemblablement, plus au nord, sur des territoires, disons, dans la vallée de l'Indus. Bon. Et là, c'est intéressant, ça nous fait un point d'accrochage avec le témoignage du périple de la mer Érythrée. Pourquoi ? Parce qu'il est dit dans le périple de la mer Érythrée qu'on date, disons, en gros, à peu près 70 de notre ère, que y a un roi qui s'appelle Nambanès, bien, et il est sur la défensive parce qu'au nord il y a un peuple très agressif, les Bactriens, qui commence à arriver. Bon. Et là c'est très intéressant parce qu'on a donc la preuve qu'il y a eu rivalité territoriale entre Kujula Kadphises et Narapana. Donc c'est exactement, ça corrobore exactement le passage du périple, ou alors, oui, je vous passe les détails parce que le texte du périple de la mer Érythrée est très, très mal transmis, donc il y a des propositions d'émendation, on a essayé de lire Héraios, on a essayé de lire Couchant, rien n'est moins sûr. Ce qu'on lit, c'est que, le texte a parlé de Nambanès, et puis alors derrière tout ça, il y a un pays très guerrier, les Bactriens, sous un roi, à partir de là, on lit pas bien. Fussman avait contesté l'équivalence entre Narapana et Nambanès. Mais, en fait, on sait maintenant qu'il avait tort, puisqu'on a des monnaies bilingues où, en karoshti, il est écrit Narapana, et en grec, il est écrit Nabanou, c'est-à-dire Nambanès. L'argument de Fussman, c'est que Narapana n'était pas un nom sanskrit, c'était un nom déjà prakritisé, et qu'il n'aurait pas pu être prakritisé deux fois pour passer à Nambanès. Mais en fait, ce n'est pas un nom sanskrit, c'est un nom iranien, ça veut dire protecteur du peuple. Donc à partir de là, il n'y a plus de difficultés. Et je dis, bon, là, ça nous fait quand même un point de contact avec le texte du périple de la mer Érythrée. Je ne crois pas que ce commentaire sur la coïncidence entre le texte et les surfrappes de Kujula Kadphises sur des monnaies, indirectement sur des monnaies de Narapana, ait été relevé. Mais c'en est un. Voilà. On est actuellement dans l'incertitude. Alors, il y a deux façons de voir les choses. C'est un prédécesseur de Kujula, et d'ailleurs, il ne porte jamais le titre Basileos en grec. Il porte le titre Tyrannountos, c'est-à-dire celui, plus ou moins tyran, un titre inférieur, qui pourrait tout à fait être en fait une tentative de traduire en grec Yabgou, c'est-à-dire sous-roi. Bien. Mais ça pourrait être aussi le jeune Kujula qui, avant qu'il impose son pouvoir sur les autres Yabgou, enfin, Douzion, au moment où il s'apprête à faire les conquêtes en Inde du Nord-Ouest, où il ne s'est pas encore intitulé Basileos, et plus tard, il s'intitule Basileos et également... En karoshti, Maharaja Rajatiraja, c'est-à-dire grand roi, roi des rois, ce qui correspond, ce qui en bactrien, au règne suivant, Vimataktu, s'écrira Shahansha sur les inscriptions. Kujula, c'est intéressant, sur ces monnaies où il s'intitule roi ou grand roi, roi des rois, il a gardé le titre Yabgou, que ses successeurs abandonneront. Bien. Voilà ce qu'on peut dire sur les débuts. Ça veut dire que c'est un dérivé. C'est-à-dire un tyranno, c'est un néologisme. C'est quelqu'un qui s'est assuré le pouvoir d'un tyran. Mais tyran, le terme tyran en Grèce ancienne n'est pas péjoratif, comme vous savez. Hein. C'est dans la littérature moderne que c'est devenu péjoratif. Un tyran, un tyrannos en grec... C'est un souverain de fait. Voilà. Ce sont, en général, par exemple, en Sicile, avant de s'intituler Basileos, il s'intitulait tyran. C'est quelqu'un qui a pris le pouvoir de fait sur une cité. Et donc, ça serait pas mal, et d'ailleurs, on y a pensé, évidemment, que ce soit la traduction de Yabgou. Bien. Alors, maintenant, on en vient à Vimataktu versus Sotermégas. On sait maintenant qu'il y a une équivalence, au moins partielle. C'est-à-dire que Vimataktu a frappé sous le nom de Sotermégas. La question est de savoir s'il a été le seul. Bien. Alors, Vimataktu. La substance iconographique de Vimataktu, elle est en fait hors des monnaies, puisqu'on a, contrairement à Kujula, son père, on n'a aucune monnaie qui nous donne son visage. Bien. Il y a toujours, c'est Apollon, c'est Mars, c'est autre chose, c'est jamais le visage de Vimataktu. Et sur les monnaies, comme je vais être amené à le dire, on ne lit pas non plus son nom, ou plutôt, on le lit de manière très rare et très hypothétique. Bien. Mais par contre, on a une statue à Mathura, dans le temple de Mat. Il est sur un trône de lion, vous voyez, et elle est inscrite Kushanoputro Shahi Vema Taktumasya. Alors, fils de Kushan, ou de famille Kushan, ou peut-être fils du Kushan par excellence, qui était son père, Kujula Katfises, le roi, Vima. Alors, Taktumasya, ça ressemble pas beaucoup à Taktu, mais en fait, Ari Falk a montré que toutes ces formes en fait, se ramènent à un original qui serait peut-être pas Taktu, mais plutôt Tartu. Bien. Tartu, on fait tomber la finale pour sanskritiser le mot. Ça fait Tartu, on donne ça devient une forme thématique. Et dans les transcriptions en sanskrit, souvent, le « re » iranien, qui n'existe pas en indien, est rendu par « kche ». C'est-à-dire qu'on rend, en fait, il y a l'occlusive, et puis l'aspiré est traduite par le « che ». D'où, par exemple, « ringila », le roi Eftalite, qui, en fait, s'écrit en indien « kshingila ». Mais, en fait, c'est une transcription érudite sanskrite d'un « re » iranien. Par ailleurs, donc, Tartu, on l'a sur les inscriptions donc, et du Dashinahu et maintenant d'Almase, Taktu, parfois Takdu, et puis également en Karoshti, on a cette forme Tartu, oui, alors voilà, c'est plus Tartu, c'est Tartu, et au génitif Tartua. Bon, donc, en fait, toutes les transcriptions qu'on a de Vima, du nom de Vima Taktu, sont justifiables et se ramènent probablement à une forme originale qui serait Tartu. Bien, ça au moins c'est un problème de régler. Et eh bien, Chao Zhong va nous évoquer tout à l'heure la manière dont son nom est rendu en indien, parce que ça pose un problème. Vima, on reconnaît Vima, et Tartu, on ne le reconnaît pas du tout. Et semble-t-il, la manière la plus vraisemblable d'expliquer la transcription chinoise, c'est que le deuxième élément, ce serait en fait, ça rendrait Gushana. Bien. Alors, il y a aussi une autre image possible de Vima Taktu, parce qu'elle est anonyme, elle n'est pas nommée, bon. C'est à Surkotal, une stèle très usée, qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a eu un article récent de Olivieri et Sinisi qui a fait pas mal avancer les choses, et en fait on voit un roi assis sur un trône, et vraisemblablement c'est une... on va dire ça peut être une Nikkei à la grecque, voilà, pas d'elle, ce serait plutôt une Shri indienne, qui lui, une déesse de la fortune, hein, qui lui apporte un collier. Et il est assis sur le trône, et vous voyez, c'est un trône de lion. Ça ferait penser au trône de Vima Taktu à Mathura. Également, plusieurs autres détails de la stèle. C'est une stèle qui n'est pas dans, qui est probablement d'une époque différente, des trois statues debout de roi couchant qu'on a trouvé à Surkotal, dont l'une est certainement Kanishka, pour les autres on discute, cette stèle est plus ancienne, enfin différente. Donc l'idée qui pourrait se présenter, c'est qu'en fait elle aurait été récupérée d'une fondation antérieure, puisque Surkotal n'existe pas sous Vima Taktu, ni même sous Vima Katfises, c'est une fondation de Kanishka. Ce serait une récupération d'un monument antérieur. Et donc ça pourrait bien être Vima Taktu. Alors maintenant, le dossier, voilà pour Vima Taktu, ce qu'on peut dire aujourd'hui. Maintenant, Sotermegas. Alors, le monnayage dit de Sotermegas, c'est le nom qu'il porte en grec, a attiré l'attention dès le début du 19e siècle, dès le moment où on a commencé à trouver des monnaies, avec Charles Mason, par exemple, à Bégram, parce que c'est un monnayage qui est extrêmement abondant et qu'on trouve est extrêmement étendu géographiquement. Alors ça a impressionné beaucoup, et puis aussi le fait que le roi ne soit pas nommé. Ça paraît, Voilà, ça a vraiment posé un problème dès le début. Alors, il faut savoir que le titre Sotermégas, on va plutôt dans son équivalent bactrien, a été utilisé aussi pour Vimakatfises, fils de Vimataktou, et Kanishka, dans l'inscription de Rabatak. Donc, ce n'est pas une spécificité de ce souverain. La spécificité, c'est qu'il s'est à peu près jamais appelé autrement que Sotermégas sur ses monnaies. Alors, quatre théories ont longtemps coexisté. On a dit, c'est un monnayage tardif de Kujula Katfises. On a dit, c'est un monnayage précoce de Vima Katfises, au moment où on pensait que Vima était le successeur de Kujula. On a dit, le Huangshu nous dit que Kujula aurait confié ses conquêtes indiennes à un général pour les administrer. Ça pourrait peut-être bien être ce général qui ne met pas son nom. Bon, voilà, alors un usurpateur, bien qui s'intercalerait dans la lignée Kushan. Alors ça, c'est l'idée qu'a favorisée jusqu'au bout Fussman et qu'a adopté aussi Osman Boperachi. Je ne sais pas s'il est encore d'accord avec ça, mais il y a vraiment des objections. C'est-à-dire que dès le début, les émissions monétaires de Sotermégas englobent, se trouvent dans la totalité des zones où on sait qu'étaient les couchants. Mat, où il y a les statues que j'ai indiquées, Ré, où on a une inscription indienne, le Gandhara, Taxila, où circulent beaucoup ces monnaies, et les monnaies de Vimataktou, on les trouve aussi au nord. Ça paraît contradictoire avec cette idée qu'il s'agirait d'un vice-roi qui était chargé de l'administration de l'Inde. Ça voudrait dire qu'à un certain moment, il a complètement évincé les couchants de tout leur territoire. Alors, autre idée qui également avait été émise, c'est ni Kujula ni Vima, c'est un souverain qui se serait intercalé entre eux, un souverain couchant, et dont on n'avait pas le nom. Et bien maintenant, depuis l'inscription de Rabatak, on sait que c'était la bonne solution, puisqu'on a Kanishka dit mon père Vimakatfises, mon grand-père Vimataktou, mon arrière-grand-père Kujula Katfises. On sait que c'était la bonne solution et que c'était Vimataktou. Alors, le plus récent bilan sur les monnaies de Vimataktou, c'est par Joe Cribb, 2014, ce Sotermégas Coins, qui prend en compte tous les types connus qui portent le nom de Vimataktou. Alors, on sait qu'il y a un atelier central, sans doute à Begram ou à Taxila ou les deux, et puis des émissions provinciales, locales, au Gandhara, à Mathura et au Cachemire. La question des émissions en Bactriane n'est pas réglée. Voilà, c'est un peu le même problème qu'on avait avec le règne précédent. Les monnaies circulent, mais étaient-elles frappées à Bactre? On n'en a aucune preuve. Bien. Il faut savoir aussi que c'est un monnayage, semble-t-il, peu contrôlé. Il y a des incohérences dans les légendes, de mauvaises orthographes. C'est vraiment le début du monnayage couche. Ce n'est pas un monnayage vraiment centralisé. Le contrôle administratif semble faible. Alors, la première question que ça pose, évidemment, pourquoi Sotermégas sans mention aucune de nom de roi? Sotermégas, le grand sauveur, par ailleurs, donc, c'est transcrit aussi en indien, Tratarasa. Alors, Cribb a fait une supposition assez intéressante. Il dit, si le père de Vimataktou, Kujula, a imité des monnaies d'Auguste, peut-être bien aussi que l'idée, c'est un... Voilà, que on a imité aussi le fait qu'Auguste, à un certain moment, n'a plus mentionné son nom. À partir de la bataille d'Actium, il ne met plus jamais sur les monnaies son nom, qui est Caius Octavius. Il n'y a plus son nom, il n'y a plus que ses titres. Augustus, Divi Filius, fils du divin César. Il n'y a rien d'autre. Donc, ce serait une imitation d'Auguste. Bien. Alors, maintenant, le rattachement à Vimataktou. Bon, c'est une idée vers laquelle, de toute façon, on est obligé d'aller à partir du moment où on constate que ce monnayage, en gros, suit Vukujula et précède Vima. Maintenant, est-ce que quelque part on lit vraiment le nom de Vimataktou ? Krib pense que oui. Alors, voilà une émission locale du Cachemire. Bon, la photo est vraiment mal reproduite, mais c'est l'original et pas formidable non plus. Voilà les dessins qu'il en a fait. Et voilà, il lit ici « Tact ». Et alors vous constatez que cette monnaie du Cachemire a de grandes affinités avec, dans le type royal, avec la statue de Vimataktou, identifiée comme telle, à Mathura. Bon, ici aussi on lirait Vimataktou. Alors, bon, non, Foussman a écrit « Je n'ai pas assez d'imagination pour lire ça ». Bien, bon, il semblerait quand même que ce soit ça. Et puis par ailleurs, mais là, Krim n'en a jamais vraiment apporté la preuve, sur certaines monnaies plus soignées de Sotermégas, de l'atelier central, donc Begram ou Taxila, il y a un Aksara ici, ici c'est un Tamga, ce qu'on appelle un Tamga, un signe clanique qui indique l'atelier monétaire, mais ici c'est pas un Tamga. C'est un aksara, c'est un aksara, un signe karoshti, qui se lit Vi. Donc ce serait l'abréviation du nom du roi. Et par ailleurs, on lit sur l'inscription, l'inscription grecque au revers, Basileu, il y a une faute, Basileu, Basileon, Soter Megas, O. Donc l'idée de Krib, c'est que O, bah, c'est le début de Wima. Bien. Bon. On va dire, moi j'aurais tendance à lui donner crédit, c'est ce que d'ailleurs fait aussi Harry Falk. Alors, dans ce dernier article, Krib a présente une nouvelle interprétation, enfin un peu, disons, nuance ce qu'il avait écrit avant. Au moment de la découverte de l'inscription de Rabatak en 96, il a attribué toutes les monnaies de Sotermégas à Vimataktou. Voilà, Vimataktou. Là, il est plus nuancé. Il dit, il pense que ça a en fait commencé avec Kujula. Bien, évidemment, ça fait beaucoup de types différents pour Kujula. Imitation d'Auguste, imitation d'Hermaios, des monnaies où semble-t-il il y a son visage, et puis peut-être Héraios s'il est Héraios. Mais enfin, bon, on est au début du monnayage couchant, c'est un peu... Probablement, évidemment, les souverains lâchent la bride aux ateliers locaux, aux gouverneurs locaux, et la véritable reprise en main va venir avec le règne suivant, Vima Katfises. Alors lui, il pense que jusqu'à numéro 5, c'est en fait sa date de Vima, c'est des émissions tardives de Vima. Alors vous voyez les portraits, hein, en fait, bon, c'est pas des portraits du roi, c'est un Apollon grec. Qui tient souvent une flèche. Bon. Qui dit Apollon grec, dit en iranien Mitra. Bien. Alors, c'est Falk qui a beaucoup élaboré là-dessus. Ça serait pas mal avec le titre Soter Megas, car Mitra est par excellence un dieu sauveur. Voilà, on peut dire ça. Puis, alors, à partir du cinquième type, ce serait vraiment Vimataktou. Avec introduction d'un nouveau type iconographique à la verre, qui n'est plus Mitra, mais soit une espèce de Mars, soit une imitation de souverain gréco-bactrien au casque. Bien. Les arguments de Krib pour désattribuer une partie à Vimataktou et dire que les premières émissions sont de Vima Katfises sont ne me paraissent pas très forts et pas toujours faciles à comprendre. Ces deux arguments principaux, c'est qu'il y a, une différence de tamga, je vous ai déjà expliqué, hein. Les tamga, c'est ça, donc c'est ces signes qui sont des signes claniques qu'on trouve beaucoup sur les monnaies d'Asie centrale. Bon, jusqu'à la monnaie 5, le tamga a 4 branches en haut. Et à partir de là, il en a 3. Bon, il pense que c'est un... Voilà, c'est un de ses arguments. Et puis, d'assez subtiles différences dans le costume et l'armement que moi, j'ai un petit peu de mal à avoir. Bon. Alors, évidemment, si on attribue le début des monnaies de Vimataktou, de Sotermégas à Koudjoulin, ça permettrait de régler quelques problèmes chronologiques quand même, parce que ça, c'est un argument que Foussman a toujours opposé à Cribe. Les monnaies de Sotermégas sont parfois contremarquées sur des monnaies indo-partes qu'on a du mal à dater aussi tard. C'est maintenant que Vimataktou, ça commence vers 90, à la mort de Koudjoulin. Ça paraît un petit peu difficile de dater ces monnaies indo-partes si tard. Et donc, évidemment, si ça a commencé sous Koudjoulin, ça résout, ça permet de raccourcir la distance. Bien. Alors, dans tout ça, l'enjeu historique est quand même important. Parce que l'initiative, donc, de, c'est le fait d'émettre des monnaies au nom de Vimataktou, au nom de Sotermégas, où il n'y a pas le nom du roi, où il n'y a pas non plus son portrait, c'est quand même une initiative politique qui a un sens. Enfin, disons, comme a fait en fait le monnayage romain, on efface quelque peu l'individualité du souverain derrière la fonction. Falk a résumé ça avec un certain humour en disant « Bon, bah, ils ont choisi d'être anonymes parce qu'ils étaient trop célèbres. » Bien. Le problème, c'est que des rois ultérieurs, Vima Katfisès, Kanishka, Uvishka, étaient tout aussi célèbres et eux, ils n'ont pas choisi l'anonymat. Donc, ça, c'est un problème qui n'est pas réglé. Alors, il y aurait donc... Ce serait l'important. Il faudrait donc. C'est sûr que l'introduction du monnayage de Sotermégas est une initiative destinée à créer un monnayage impérial unifié, puisqu'encore une fois, ces monnaies circulent dans toute l'ère Kouchane, de l'Inde gangétique jusqu'à la Bactriane du Nord. Donc c'est important de savoir qui finalement a véritablement créé l'Empire Kouchan en tant qu'empire. Donc, peut-être déjà le vieux Koudjoulin, ou bien directement Vimataktou. Du point de vue, une étape ultérieure va être franchie par le roi suivant, c'est-à-dire Vima Katfisès, qui va lui créer le système qui va subsister jusqu'à la fin dans l'Empire Kouchan, un bimétallisme argent-or. Or-bronze. On n'avait auparavant pas de monnaie d'or, on avait des monnaies d'argent, mais souvent dévaluées en billons. Un argent de mauvaise qualité et parfois du bronze. Vima Katfisès crée, met au point un monnayage où on a des grosses monnaies d'or, frappées en très grand nombre. Il faut voir la quantité de monnaies d'or Kouchane qu'il y a dans les collections. Et par ailleurs, le monnayage, ce qui était avant le monnayage d'argent, bon, il entérine la dévaluation, il en fait un petit monnayage de bronze qui sert pour les transactions courantes. Et ça, ça va durer jusqu'à la fin des Kouchans. Donc là, on voit quand même se mettre en place, disons, un dessein impérial. Adoption généralisée du type de Sotermégas, ensuite au règne suivant, réforme monétaire qui établit un système bimétallique. Il y a sur ces monnaies, alors je termine donc avec ces monnaies de Vima Katfisès, qui posent un problème, sont-elles authentiques ou pas ? Parce que ce serait en fait les toutes premières monnaies de Vima Katfisès. Ah oui, alors, j'ai oublié de dire que le monnayage de bronze couchant, au départ il est de bonne qualité, c'est du monnayage en fait de cuivre, après il va se dévaluer. Ce monnayage de bronze au début est de très très bonne qualité, et l'idée qui vient à l'esprit, c'est que ça correspondrait au début de la mine en exploitation, de la mine de cuivre de Messaïnac. Ça avait été l'idée de, c'était l'idée de Foussman, et de également un archéologue afghan, Ranzadeh, qui l'avait fait venir ici au collège. Ce seraient les plus anciennes monnaies d'or de Vima Katfisès, et évidemment, si elles sont authentiques, l'inscription est extrêmement intéressante car elle est généalogique. À l'avers, on lit Vima Katfisès, et au revers, on lit, sous-entendu, monnaie du fils du roi Vimataktou le couchant. Donc, véritablement, l'affirmation de la continuité dynastique qu'on va retrouver ensuite, sous Kalishka, dans l'inscription de Rabatak. Alors, donc, c'est Bopé Arachi qui a publié ces monnaies. C'est un trésor qu'on a trouvé à Pipalmandi. Selon Bopé Arachi, elles sont authentiques. Et c'est également l'opinion de Falk. Krib a affirmé nettement que c'était des faux. Ou peut-être pas le premier, mais justement le premier n'a pas l'inscription généalogique. Le raisonnement de les objections de Falk, moi, me paraissent assez convaincantes. C'est dans son article « Kushan Religion and Politics » que je vais être amené à commenter plus tard. Il pense qu'en fait, il s'agit d'un monnayage expérimental. C'est-à-dire que c'est des monnaies qui... certaines ont circulé, on les voit très usées. Mais c'était des monnaies qui, émises en très 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 petit nombre... Destiné encore une fois on a mis plusieurs graveurs et plusieurs scribes sur le projet, et puis on a confronté leur travail avant finalement de choisir un type particulier. L'idée est intéressante parce que ça trouverait un point de comparaison assez significatif avec ce qu'on a avec l'inscription de Surkhotan, la grande inscription de restauration, où on a trois versions, et dont deux qui ont été visiblement pas exposées ou exposées dans des endroits subsidiaires. Deux des versions semblent avoir été expérimentales. Parce qu'on voit très bien que celle qui a été retenue pour la grande inscription monolithe qui a d'abord été découverte et publiée avant les autres, est à tout point de vue la plus correcte. Les lettres sont le mieux gravées, la grammaire est la meilleure, et les autres étaient expérimentales. Donc, c'est en fait un appel d'offres. Voilà. Et ici, on aurait eu aussi un appel d'offres. Oui. Mais évidemment. Non, enfin, un faussaire contemporain, oui. Mais le faussaire contemporain... Alors le faussaire contemporain, il aurait lu l'inscription de Rabatak, il aurait lu les éditions de l'inscription de Rabatak. Attention, les faussaires pakistanais aujourd'hui, ce sont des gens à qui on donnerait des thèses ici. Il y en a un bien connu, c'était un des étudiants épigraphistes les plus doués à Paris. Et puis comme il a le boulot qu'il a trouvé, c'est de faire des fausses monnaies. Donc attention, contemporain, parce que l'idée de Falk, c'est que ce sont des faux contemporains. Non, l'idée de Krib, c'est que ce sont des faux modernes. Voilà. Donc, j'ai tenu les temps. Ciao, John. Donc, do you want me? No, Lanchi next time. Les rayons et le type juvénile. Non, ça, c'est les premières que j'ai montrées, mais c'est plus Apollon. Il a une petite tiare, c'est les premières monnaies que j'ai montrées du Sindh. Il a une petite tiare, il a les joues creusées et il a des grosses rouflaquettes. Mais ça, c'est pas le type Apollinien. Le dessin n'est pas très exact.
On voit des sortes de flammes qui sortent.
Oui, il y a des flammes. Non, ça, c'est sûr, il y a des flammes.
Mais et là, c'est pas Apollon, tu vois. Et donc, est-ce que ces rayons.
Oui, mais alors le fait, les arguments pour Apollon, c'est quand même bon, le fait que d'abord, il est glabre. Il n'a pas de moustache. Alors les couchants, même quand ils n'avaient pas de barbe, ils avaient des moustaches. Bon. Il est glabre. Et sur certains types, le visage est poupin. On a l'impression que, en fait, c'est copié sur une statue. C'est copié sur des images grecques d'Apollon. Alors, je sais bien, parfois, ça a évolué. Alors, peut-être une tentative de représenter un personnage réel, je ne sais pas. Mais c'est évidemment la flèche, les rayons, le type très grec du visage, c'est évidemment Apollon. Enfin, Apollon, l'appelait-il Apollon? Je pense qu'il l'appelait Mitra.
Okay. It's in my turn. Yes, before shifting to Chinese sources, I just have to clarify one slide by Franz. That, actually, as far as I know, these hypotheses of Taktu to Tahu to Tachuma has been rejected by Falk himself in the book Kushan Histories. You should consult the text 088. I just read his note. The strange Tachuma Xia has baffled all interpreters because he thinks it's just a scribal error. 107. So Ma is just 07.
Let me see that.
Ma was just a scribal error for A.
Okay, note editor. It's a strange commercial buffer of interpreters. Instead of taking picture of the donner meilleur. All difficulties disappear once we take the Ma as a microscope initial of A. Ouais. Ma a different sometimes of time.
Yes. So
once the genitive of Takshuma disappears, we have a nominative Vema Takshu. And a new clause starting with Asia. Oui mais but it doesn't really It's not anymore Takshuma.
Yeah.
It's Takshu.
Yeah, Takshuma just.
But it doesn't change anything.
Right. So just a little bit.
The inscription is still attributable to Vema Takshu.
Yeah.
The point is that Iranian kh is transcribed by Sanskrit ksh.
Yes, and Takshuma does not exist. So just don't take it seriously.
I took it from. I scanned it from his article. I didn't check it.
Yes. So we continue to read Ho Hanshu and again in English. Sorry. So last week we treated the phrase "À son tour, il détruisait l'Inde et établit comme général l'un de ses hommes pour la gouverner." And we discuss whether here Tianzhu, more likely India or just the Indus River Plain. And concerning this phrase, especially the translation of Le Fou here, the first character, à son tour, the great philologist and Indologist Denknov from Norway once put a question in the same book that I quoted last Friday. So he said, though this description is somewhat obscure, because it also mentions countries to the west and east, it seems clear that the country conquered by Yan Gaozhen, or son of Kujula, was situated on the Indus. Okay. He also expressed the same idea that Tianzhu means the Indus River Plain. And then he questioned, at an earlier period of the Indus country had been ruled by Sakas. Now we have seen that the Ho Hanshu state that Yan Gaozhen again conquered. That means this Fu. again conquer Tianzhu, and we get the impression that his conquest is described as a reconquest, and it had been maintained that this word rendered as again should, in this passage, be translated as further in his turn, since there is no indication in the whole Hanshu of a previous conquest, which was repeated by Yan Gaozhen. It is impossible for non-sinologists to judge about the merits of these translations, but from the point of view of Indian history, the meaning again is thoroughly intelligible, since we know what there had been a previous conquest by kindred tribe, so that the Kushanas may here be considered as repeating the deeds of their Saka cousins. Okay, and so similarly, some other modern scholars once questioned if Kujala had invaded India for the first time and by his son for the second time. It's another kind of period. But in fact, this translation again has been rejected by Yu Taishan by providing several reasons. The most important one is that ancient Chinese would hardly have any knowledge about Saka invasion into India. They only heard that they fled via a mountain pass cross, suspended crossing, and then became a ruler of Jibin, but not Tianzhu. So it's the basic reason. And for this point, I generally agree with Yu Taishan, but must emphasize a good translation of Chinese classic should not be mixed or modified with too much modern knowledge, as I emphasized last time. So, before choosing a proper word for translation, nowadays we should consult real specialists in semantics and other fields of linguistics, not merely playing with the handbook of phonological reconstruction. So, concerning the usage of fu, the adverb, in a way, a Japanese scholar has demonstrated its semantic development that it has three common functions before the Han dynasties. So I just roughly translated just his Japanese paper into English for you. So the first is moreover, in addition, furthermore, and that means accumulation of an action or a situation. The second function is the same action repeated by different grammatical subject. And the third is in addition, furthermore, continuation in the temporal dimension. So actually this paper has nothing to do with our text. It's just a general examination of the fu in the Chinese literature. And yeah, so in my eyes, all the three are not so identical with the English again, but all the three function can fit in the context of our phrase in question. And I would say that the second one may be the best explanation. That means Yan Gaozhen just repeated the action that Kujula had done, but the thing being repeated is the action, the verb, not the object or the area of the verb. So do you understand what I mean? So there's no question of reconquest from the text of Houhan Shu. Now, concerning the same passage, in fact, he gives a strange explanation that Fu Mie should be counted as a term, a complete collapse, Fu Mie as a whole term. But this is not acceptable. I think this is more likely due to a typesetting errors for compound Fu Mie, overturn and overwhelm. And this mistake is somehow understandable because in simplified Chinese, the two traditional characters were just simplified into the same way. So anyway, it's not helpful, but there must be something mistaken in that ABC dictionary. So also there's not necessary at all to take Fu Mie as a very special expression of a complete collapse. There's no such thing. So, in fact, my explanation of the verbal compound jianling last week, that so far only Hill has translated fairly as supervise and lead, and then adopted by Harry Falk here for F, actually has an important implication concerning how should we understand the nature and reliability of Fan Ye's Houhanshu. Last week, I explained five cases of its usage, this compound Jianling. Especially the fifth one is informative about the kingdom of ancient Korea and its dependency. And in fact, there is the sixth case that I did not have time to explain, but actually the most interesting in my eye. So I reserve it to you today. That is to say, the compound Jianling is used to describe the relationship between Tiaozhi, most probably a transcription of Antioquia, and Anxi, the Arsacid Partia. So here you see Jianling.
The identification of Chao Taoji is Antioquia is now questioned.
I know, I will explain.
Okay. It should be Taoche on the Persian Gulf, but you know that.
I know that.
And I think it is now the accepted view.
Yes, but not the current view in China. So I have to explain different views. Taoche is Puli Blanc's. I won't translate the full text, but the environment of the state of Tiaozhi in the Houhanshu can be roughly sketched as the image in this slide, just from the text, that it has its capital city on a mountain or a hill. The city borders the Western Sea, perhaps facing the west, but the text does not give any specification. Seawater was somehow surrounding the south, east, and north of the state, so the access is cut off on three directions. Only in the northwest corner is there a trafficable land route. The land is hot, the weather is humid, and it produces lions, rhinoceros, etc. So many scholars, especially in China, such as Yu Taishan, now believe that the realm was Antioquia of Seleucid, which correspond more or less with today's Syria, and the capital city is to be identified in his theory with Antioch on the Orontes, now situated in Turkey. However, a similar passage has been written in the Hanshu, and it has been a long debate before Eusebius' translation of the chapter in the Hanshu. So this one, China in Central Asia, and actually his translation of the chapter 96 of the Hanshu, and another chapter. So I won't go into detail today, just show how different are the various suggestions about the location of Tiaozhi and its capital. For example, Shavan once indicated that Tiaozhi should be at the mouth of Tigris, this dashed missing. So,
which year is the embassy?
Which year? Which one do you mean?
The embassy mentioning Tiaozhi. Which year?
Initially, Tiaozhi was heard by Zhang Qian during his journey to the Yuezhi, so very, very early, and then during the Eastern Han Dynasty around 97 CE or so. An envoy really arrived at Tiaozhi.
Okay.
He was dispatched by Fan Chao. So there is a big time gap. So, yes. So that means Shafan believed that Tiaozhi is somehow maybe around Iraq, but the capital is here. And this is the theory basically adopted by Hills, if you look into his book. So now the problem is that concerning the attestation of the compound word Jianling, it is at first glance difficult to decide its exact meaning. So let Hill translate, blah blah blah, you'd reach Anxi, and later on, Tiaozhi conquered and subjugated Anxi with a question mark by him. They have, in fact, installed a general there to supervise all a small town. And also I must mention that there is no mention of conquer at all in the Chinese text. But anyway, that is just his interpretation. And in this sentence, he just simplifies his translation of this compound into supervise, not supervise ended. On the other hand, Yu Taishan understood it in another way. Anxi or the Arsacid Partia must be the suzerain, and Tiaozhi once became one of Anxi's dependencies. So one reached Anxi, which later subjugated Tiaozhi, appointed a military governor with control over all the small towns in it. As to Chavan, he gives con en oblique vers le nord, puis vers l'est, en marchant encore à cheval pendant plus de 60 jours, on arrive au Anxi parti. Par la suite, ce dernier pays s'est asservi, le Tiaozhi. Il y a établi un général en chef pour surveiller les diverses petites villes. So here he used the French reflexive verb expression, a verbal expression, s'asservir, and well, as far as I can count out, se mettre dans l'obligation d'obéir à, se soumettre à, etc. And that means he saw the suzerain was Tiaozhi, not Arsacid, right? So, with regard to this problem, Hill explains, the Chinese text in this passage is ambiguous and can be interpreted into two different ways, either Tiaozhi subjugated Partia or Partia subjugated Tiaozhi. On balance, it seems the text should be interpreted as having Tiaozhi conquer Anxi, even though this seems unlikely and the situation was likely reversed. Now, how can we do for this? For me, the problem can be formulated in a syntactical way that the key was whether another verb compound, 艺术, here is to be taken as active or passive construction. And for the sake of clearness, I first tell you my conclusion before explaining my reasons. In my eyes, the construction is active here, active, not passive, because all the attestation of jianling, supervise or inspect, and lead in the Houhan Shu invariably appear in the form of active construction. And as far as I can see, the phrase between then here is also of active construction. And therefore, the phrase in our question is naturally also in active construction. That means Yu Taishan is correct concerning the syntax of the passage. To explain my reason, first, please note that the phrase Wei Zhi is to be understood as place a position for it. So position is general, and for it is the Tiaozhi or Antioquia. And it is an abbreviation of Wei Zhi Zhi, so the pronoun was omitted. For this kind of usage in active construction, I found a number of good examples in the Houhan Shu, such as to settle the officers, here, 乃未至水官吏, about watering ditches and channels in the Hexi corridor, and to settle special envoys, 使者, and military commandant, 教卫 or 小卫, in the Tiring Basin, which was later renamed as 都护, the protectoral general, who protect both the southern and northern route around the Tiring Basin. So from this road and this road, protected by Han General. And now let's return to the problematic verb, compound verb 艺术. I think actually this compound can be a topic for itself for a whole semester because both characters have so many meanings, different usage, and many functions. To explain it in a most concise way for you and for our context in the whole Hanshu, here Yi essentially was, originally a noun, meaning labor service or kovei, but especially military service on the frontier. And here is to be taken as a verb, to command or force somebody something into service, and usually in military or governmental affairs. As for shu, its basic meaning is a verb to connect, to link with another, here, lian ye. Also an adjective meaning connected and linked. But this meaning was later offered with a unique pronunciation, zhu. In our text, its meaning is a derivative one, and I would translate roughly to make somebody affiliated to a larger organization. And for the military use, it means to make somebody, some polity, under someone's command. And for politics and diplomacy, it means to treat a polity as a dependency. It is remarkable that these usages are very different from the more common meanings in modern Mandarin about ownership that is usually translated as belonging, belong to, or be the property of. And in the chapters about Western regions in Chinese annals around the Han period, the basic meaning just concern, the basic purpose of this chapter are only military and political relations. So it will be very improper if one applies modern meanings of shu, like qin shu for kingship, or zu shu for ethnic affinity or property, into the text in our question. Do you understand my point? Now, both Yi and Shu are common words in the literature of the Han period, but their usage as a verbal compound is not so usual, and actually very countable. And I checked the Han Shu, and there are 5 attestations, good attestation of Yi Shu. In Hou Han Shu, there are also 5. And except for the one about Tiao-Zhi-An-Xi relation in our question, the distribution between the active and passive usage are not so different. However, in the Han Shu, there is the famous and clear example of passive usage in the preface of the chapter 96 about China's West that I just take Yu Sevei's translation as example. So now again, I quoted Yu Sevei's translation. The state of the Western regions, mainly around Tarim Basin, for the most part, have inhabitants who are settled on the soil with walled cities, cultivated fields, and domesticated animals. Their customs differ from those of the Xiongnu and the Wusun. Formerly, they were all subject, Yi Shu, to the Xiongnu. And here actually it's a passive construction. And from the history circumstance, we know that the subject who actually made this action is Xiongnu here, and they just govern or dominate the Tarim Basin before the Han conquest. Nevertheless, in the same chapter 96 of the Han Shu, here the text is crystally clear concerning the situation of Tiao Zhi. So I just said, the state is situated on the Western Sea, blah, blah, blah. And then there is a verb underlined here, Anxi Yi Shu Zhi. Anxi subjugated it, or Anxi subjugated those minor overlords and chiefs, and treat Tiao Zhi as an outer state. So here the phrase is just clearly an active construction, So, Anshi subject and verb and object. And this object is the replaced by a pronoun, it. And just a simple sentence of SVO construction. Moreover, it has been proved that this passage about 调之 in the 汉书 was just copied from the chapter in the 史记 about Zhang Qian's report very, very early. The sentence is the same. So, the phrase that Arsacid made Antiochia as its servant and dependency was in fact a situation heard by travelers around the second half, second century BC, not the real situation during the Eastern Han period. So concerning this phenomenon, I agree with Yu Taishan's commentary that to a large degree, that the phrase in the whole Hanshu can only be understood as Anshi subjugated Tiaozhi. Although my view and my reasoning are not totally the same as his. But by putting the details aside, I think Yu Taishan correctly confirms the opinion of some Japanese pioneers that here the phrase is actually an obvious evidence that Fan Ye, or the editor of his basic sources, just copied old data and therefore produced a very misleading statement. It is noteworthy that in the Chinese version of his book, the verb he used is 抄袭 here. And this verb does not just mean copy neutrally, but a verb nowadays with a more negative sense, to plagiarize. In other words, the situation about Tiaozhi left by Fan Ye is not a situation during the Eastern Han Dynasty at all, but something mixed with imagination or misunderstanding or confusion. We know that the situation was not true in the 1st and 2nd century CE, because as a matter of fact, Tiaozhi of Syria, how's what to say, has become Roman territory, right? So I just don't go into details. But I do not much agree with his argument about the contradictory let as how to say this contradicts the statement that Anshi later subjugated Tiaozhi because. Since Anshi appointed a military governor with control over the small towns in it, it must annex Tiaozhi. So for him, to appoint a general cannot be conformed with the fact that he made the city-state as dependencies or under his command. But for me, it's no contradictory. So that means for me, there is no contradiction to settle a general and to make the polity subordinate to an emperor, empire at the same time. It was just a model of Han's colonization into the West, and at an earlier stage, the Xiongnu had already practiced such a strategy to the Tarim Basin. So in my opinion, Fan Ye just adopted his knowledge, his view about the Chinese protectorate among the city-state around the Tarim Basin, when he tried to describe or even imagine the expansion of the Arsacid Empire to its west. In brief, the phrase in Hou Hanshu about the Anxi-Tiaozhi relation is an anachronism. It was a piece of information heard or collected from this very earlier stage, collected during the Emperor Wu Di's reign. This implies, as I have tried to explain about the enigmatic Puda and the rise of Indo-Parthia last week, readers should not always take the statement in the whole Hanshu as simple and absolute truth. In fact, Yishu as an active construction to qualify the relation between polities has been firmly established as early as in the Shi Ji here, the earliest work. It occurs in the text about today's southern China and Vietnam that I treat already last week. So here you found this verb, verbal compound, Yishu. In brief, before the Han expansion to its south, a Chinese named Zhao Tuo, who fled to the south during the wars raised by the first emperor of Qin, gradually unified the southern area, the polities. And after the Han dynasty was founded, and then after the founder and his widow died, this Zhao Tuo became stronger, giving many gifts to his neighboring minor polities around here on his northern boundaries and making them obey his command and even become his own dependencies, Yishu. In this way, this Zhao Tuo proclaimed himself as emperor of the same status as the emperor of the Han dynasty. The same active construction of Yishu is also found in the part about ancient Korea and its dependencies that I have introduced last week as well, but in the Hanshu. Here you find the attestation that another Chinese called Wei Man also fled to the northeast frontier with more than 1,000 refugees when Qin Shi Huang was trying to unify in the China. So they crossed the Beishui River around here, subjugated the local barbarians as well as other refugees from China, and the leader Wei Man therefore ruled there as king here, Wang Zhi. So there is no problem at all to take the active usage of this Yishu, this verbal compound, as the most ordinary one in classical literature. Moreover, it is interesting that actually the active expression Wei Zhi also appear in the same passage that I omitted last week. Here, Wei Zhi. That means before the central China was unified by the Emperor of Qin, the kingdom of Yan around here had once invaded into the frontier area and made those aboriginals dependencies. And the kingdom of Yan had placed officer Wei Zhili there for governing them, and it had built some military fortification there. So here, Zhu Zhang, to build walls. And again, Wei Zhi is an expression already inherited from the Shi Ji. That means Fan Ye clearly knew the meaning of this verbal expression, Yishu and Wei Zhi, and made usage of them in his own writing. For this reason, there is no other way to understand a sentence about the Tiao Zhi Anxi relation, although it seems not to reflect the historical truth. Now, how are Fan Ye summarized the early history of ancient Korea? In fact, he described it not accurate at all. He said, during the Qin Emperor's unification wars against the other six kingdoms here in this period, there was a diaspora from eastern China. Then during a commoner's rebellion in 209 BCE, the whole China became crushed down. Therefore, the Wei Man could have the opportunity to found his own kingdom around here, actually in 194 BCE, as described by Shi Ji and the Han Shu. Then, Fan Ye wrote, more than 100 years later, Bai Yu Yu Sui, the same passage occurs in our paragraph about Kujula. His kingdom was overwhelmed by the Emperor Wu of Han Dynasty, actually in 108 BCE. So in this sentence, it's evident that a period of more than 100 years does not start from the final event of the long progress but a loose one that probably took the whole progress as a whole. In this sense, we may have to count the more than 100 years later on the rise of the Kushan Empire from a gradual and perhaps slow process. At least not necessarily the final stage of the formation of the five Yabgus. So here are my brief remarks on the whole Hanshu concerning China's frontier. First, the passage of the more than 100 years in the whole Hanshu should be rather taken as a very inaccurate expression. Second, the situation in the remote west, such as the Tiaozhi Anxi relation, was in fact just a rephrasing of old data. Probably, I would say, that it was mixed with some news heard or collected during the Eastern Han and not totally out of his own imagination as an armchair historian, but we should know that the object could be different, because there were several historical towns named by Antioch in Near East, and Fan Ye or his primary predecessors perhaps just confused some among them. In other words, it will be risky or perhaps even futile to find any definite identification of Tiaozhi in the whole Hanshu. For the same reason, we should also be very prudent when treating Fan Ye's summary here of the early history of ancient Tokharistan before Kujula. We should not take it as the absolute truth, because it is very likely an oversimplified patchwork mixed with some late news, and many details could have faded off. However, despite of such impreciseness, I think there is at least one thing worthy to remark. If we compare Fan Ye's phrasing of the Kushan-Indian relation during the reign of Kujula's successor and his phrasing of the Parthia-Antiochia relation, no matter its anachronism, it's clear that in his view, both colonial governments were based on military control by appointing a general. That means it's different from the mode of Western Han Dynasty during its expansion to the southwest, that local chieftains were annexed as counties and therefore absorbed into Chinese system peacefully. To demonstrate this difference, we have to return again to the history of ancient northern Vietnam that was once independent. So the strategy of Han Empire during the expansionist Emperor Wu to conquer this unacceptable empire to his south was to open the road from the small vassal state of Yelang here. In that time, the king of this small state was recognized by the Han court as a Marquis Hou, Marquis of Yelang, whose name is Duo Tong. The Han court gave him a lot of gifts, persuaded him with the Han's power and virtues, and here again there is a testation of Wei Zhi, that the Han court made a deal with the king or the Marquis that the Han Empire placed officers for his realm and will make his son as a magistrate of county. It implies that his kingdom became a new commandery of the Han Empire, and a legitimate heir became the leading officer of a county in it. What were placed there was administrating officers, Li, not general, Jiang. But interestingly, the Marquis was permitted to keep his honorific title, and he even promoted to the status of king in the empire after the northern Vietnam was conquered. So as a token, he received a Chinese seal with the inscription of Wang in 109 or 8 BCE. So in this manner, the kingdom of Yelang was peacefully annexed by the Western Han. On the other hand, what had been done by Kujula and his son crossing the Hindu Kush could be a more martial and invasive actions. Now, I think finally we are ready to deal with the final passage of the entry. So, Thierry translate, depuis cette période, les Yuezhi sont extrêmement riches et prospères. Tous les autres pays, quand ils partent, les appellent royaume de Guishuang. Mais le Han, en raison de leur ancien nom, les appelle Kong Yuezhi. This passage seems to safely grant the fact that the Yuezhi were the direct ancestors of the Kushans. But I will show that the things are not so easy. If we compare it with Chuhi's translation that, but the Han, basing themselves up on the old appellation, speak about the great Yuezhi, and also hills, the Han called them by their original name, Da Yuezhi. Then, in fact, there are some slight differences that we should not neglect. That is to say, what Thierry perceived as the people, the ethnic group, here, because in plural, is treated by Thierry and Hill as the ruler. The ambiguity is reflected already in Chavan's early translation. Tous les divers royaumes les désignant en appelant le roi, etc. So, the difficulty is how to interpret the signification of the pronoun 之 here, it or then, and moreover, whether it refers to the same, thing as another determinative pronoun or adjective 其 here. And for this character 其, I have explained it last week when talking about Kujula's expansion. So it could mean variously it, this, that, this, or it's, his, her, there, etc. And so, scholars' different opinions can be demonstrated by drawing arrows like this. Now, it's clear that Thierry thinks both characters refer to the same, to a people, in plural. Probably so did Chavans, but Chavans was less sure. And anyway, why such difference occurs? This is, for me, actually a question about one's sense and experience in reading classical Chinese, and very difficult to explain because I'm a native Chinese. But an important factor, I would say, is no doubt how one analyzed the whole entry. In brief, since there was no clear paragraph division in the layout of ancient texts of Hou Han Shu, one must do it in one's mind. And an essential feature is the time determinative at the beginning of a part, as modern editors of Zhonghua Bookstore usually do in this way. So, after the general introduction of the location environment as the first paragraph, the second paragraph should be sorted out by the words Chu initially, originally, and then Hou after more than 100 years. The question here is that there is also a word Hou here, after that, or since then, translated by Thierry as depuis cette période. So, to take it as a beginning of the new paragraph or not affects how we understand the signification of qi. That is to say, if one take it as a new paragraph, it like this. It is not necessary to find object in its previous paragraph about Kujula and his son. So, we can reformulate the question as follows. The first solution is that if the determiner qi refers to Guishuang as name of a people, then Gu Hao, the old originals it determines, refers to the people and can be understood as the old name of just a group of people, and that is what is implied by Thierry's and Chauvin's translation. But if Qi refers to Kujula as a person, then Gu Hao could mean his own thing, such as the earlier title according to Kuwayama, and he has restored it as Da Yue Zhi Gui Shuang Xi Hou Qiu Jiu Jue, as I have demonstrated in a part about wooden sleeves, or the flag or banner of Kujula's early suzerain in Yu Taishan's theory. That means Kujula self-proclaimed or pretended to be the legitimate successor of the royal house of the Da Yue Zhi. In either view, there is nothing that can prove that Kujula had the royal blood of the Da Yue Zhi. He was just a ruler of one of the dependencies, a vassal in the countryside. And in my opinion, there can be a third solution, as implied by Kuwayama's paper, that the determiner refers to the general topic of the whole entry because it is the conclusion. In this way, Gu Hao refers to the name Da Yue Zhi as a state, as a kingdom, but not as a nomadic people. Because when the Hanshu was compiled, the entry of Da Yue Zhi was evidently meant to describe a kingdom and its realm. And the topic there is the territory around the Bactria and Tokharistan, not the ancestors of the ruling class. Do you know what I mean? And for me, this kind of view is not impossible and even very workable. And there are similar phenomena in the world, as I already shown in the site. For example, China is named such in European languages ultimately because it was the Emperor Qin and his ancestor who developed in the west of central China and gradually unified all the polities. So no matter how many dynasties later have raised, even fully conquered and ruled by the barbarian, including Mongolian and Yurchin, China is still the conventional name of this land for Westerners. And though I'm not a specialist of the history of France at all, but the name of your country could be also another case that now is called France, but in some countries such as Greece, people are still maintain the old name Gallia. Now, the first opinion represented by Chauvin and Thierry is widespread in the West, so that you see everywhere, such as the introduction of Fox's paper on the five Yabgus, where he just want to summarize the common sense until now at the beginning, so that he said the Yue Zhi, that is, le couchant avant la lettre. Similar concept occurs later in the same paper, so that the Yue Zhi, the couchant to be, etc. I think this actually reflects the translator's mind that the Qi should refers back to the second paragraph about the ancestors of the ruling class of the state in the Hanshu, namely the diaspora of the Yue Zhi people from China due to the expansion of the Xiongnu in China's north. This is not impossible, but a bit strange. In fact, we have several examples in the whole Hanshu that the Eastern Han Dynasty, or the writer, just adopt the new name, the new Indo name of a people chosen by themselves without insisting their old name at all, such as the Wuhuan and the Xianbei, formerly the Eastern Hu. And last week, I already mentioned the Wuhuan here just to the east of Xiongnu. And now I won't go to details. The second opinion is based on the view that Qi refers to the topic of the third and also the final paragraph as a whole, so the hero Kujula, and so the logic is straight and simple. In the third opinion, the determiner Qi goes back to the beginning of the whole entry, also the general topic, namely Da Yue Zhi as a state, name of a state, and also a piece of land, corresponding to Bactria or Toharistan in the Western literature. And actually, it is expressed in Koyama. He also accepts this kind of analysis, and it was originally indicated by Kuwabara of Kyoto University that in this case, the old name or just refers to the country, and this concerns how the Han Dynasty recognized this name, this state in diplomacy. And it's nothing to do with ethnicity or blood genealogy, so you know what I mean. And I think I just end here, and next time, yeah, it's almost, we will talking about the name of Five Yagus on the maps.
Okay, so you next time you introduce the topic of the Yagus.
Yes.
And then I start presenting the conflicting views. Mine, Falk, and...
I will present on the map because I recollect your opinion in 2019. I have different good maps that you already draw your concept before that.
So you present it first?
Yes.
And then...
You comment on the map.
I comment on the map.
Yes.
Justifying my argument. And then...
Provide your new...
Falk.
Yes.
And then I move to Kuwayama. But are you... yourself presenting Kuwayama's view?
I will explain, but you comment.
Okay, yeah. So next time the same, we'll share the session by half.
Yes, thank you.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.